sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand-Besançon et Marie Blanc, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez, aujourd'hui à la technique, Ludovic Asselot. La gourmandise de ce matin est un dessin du peintre britannique Edward Burne-Jones qui semble tout droit sorti d'une bande dessinée actuelle. On y voit un wombat, ce petit mammifère marsupial australien ressemblant à un castor déguisé en ours, courir dans un paysage désertique ponctué par des pyramides, des palmiers, un massif rocheux et un éclatant soleil. Si l'illustration ne se trouvait pas dans la biographie consacrée à l'artiste signée de sa femme en 1904, on douterait fortement de l'auteur. Mais Burne-Jones avait apparemment une véritable affection pour ce petit animal cartoonesque qu'il dessina à plusieurs reprises. Nous mettrons un lien vers l'image sur le site de l'émission. Après des études de dessin publicitaire, notre apothicaire de l'âme travaille comme directeur artistique dans la publicité. Son licenciement est pour lui une libération. Après quelques rêves de commercialisation de boomerang en plastique moulé, il se lance dans le dessin humoristique et sème sa fantaisie loufoque et douce amère dans des magazines comme Lui, Télérama, Lire, Le Point, Playboy, Psychologie ou Madame Figaro. Avec une causticité non dénuée de tendresse, ses gouaches figurent des êtres égarés dans la modernité et l'absurdité de l'existence. Solitude, vacuité, futilité, sentiment d'écrasement, sont mis en scène avec une drôlerie qui sauve des larmes, larmes pourtant inévitables si l'on songe sérieusement à ce qu'ils soulèvent. Admirateur de Sempé et de Chaval, notre apothicaire est aussi champion de boomerang, une information que je ne pouvais décemment éluder et qui me permet de faire une introduction en forme de boomerang si l'on remarque que ce mot apparaît au début et à la fin de cette introduction. Mais saluons notre invité avant de se transformer en ersatz de Francis Ponge. Vouch, je vous salue.
Eh bien, pareillement.
Bon, c'est déjà pas mal. Quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie, Vouch, sachant que quand on lit vos autobiographies, vous en rédigez parfois, elles semblent assez fantaisistes, mais malgré tout réalistes, votre vie semble être une suite de catastrophes.
Non, non, pas tant que ça, mais bon, il fallait, tant qu'à faire une biographie, autant que ça soit rigolo, qu'on s'ennuie pas. Alors j'ai gardé les épisodes les plus ridicules.
Parce qu'on le disait hors antenne, l'être humain est ridicule.
Mmh.
Presque en permanence.
Souvent.
Bon, alors vous ne m'avez pas répondu, Vouch. Quel est, vous, votre rapport à la mélancolie ? Est-ce que vous vous considérez comme un être mélancolique ?
Pas vraiment. Non, c'est pas vraiment ma nature, mais il y a des sujets qui me rendent mélancolique.
Lesquels ?
Par exemple, quand on entend que les passereaux sont en train de disparaître, que les insectes sont en train de disparaître. C'est des choses qu'on note tous, en fait, dans notre vie, comme ça. Et ça me rend très mélancolique, oui.
Mais donc, on peut pas vraiment parler de mélancolie, puisque c'est une tristesse avec objet, c'est pas une tristesse sans objet.
Ah, ben donc voilà. Donc, en fait, je ne sais pas ce que c'est que la mélancolie.
Alors, si j'aborde votre rapport au travail, il semble être parfois un peu douloureux. Vous dites dans une interview, Vouch, quand je fais mes dessins, je travaille si lentement dessus qu'au bout d'un moment, ça me dégoûte. D'ailleurs, je sais qu'un dessin est terminé quand je ne peux plus le voir.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, le perfectionnisme, ça a quand même une limite. C'est qu'au bout d'un moment, on s'échine, on produit un gros effort. Et puis, à un moment donné, ça commence à tourner dans le vide, quoi. Ça commence à pédaler. Et là, faut s'arrêter. Cette insatisfaction qui est un moteur à certains moments peut devenir à un moment donné complètement stérile.
Ça, je l'entends, mais je vais peut-être insister lourdement, Vouch, mais on dit parfois que les gens les plus drôles sont les plus désespérés, et il y a beaucoup d'ironie même dans vos dessins, et puis dans le titre de vos albums, tout s'arrange même mal, le pire n'est même pas certain, personne n'est tout blanc, chaque jour est une fête, évidemment, vous démontrez oui. Le contraire. Vous la ressentez quand même, ce petit pincement au cœur dans l'absurdité de l'existence, vos personnages, ils sont souvent...
Oui, j'ai mon médicament, et mon médicament c'est de faire des trucs rigolos avec ça. Donc moi, effectivement, j'ai la maladie, mais j'ai aussi la parade, voilà. Mais à propos des titres de livres, le truc qui me frappe quand même 20 ans après le premier bouquin, y a des titres qui sont complètement au deuxième degré. C'était le cas de « Chaque jour est une fête », par exemple, ou de « L'amour triomphe toujours ».
Ouais.
Et le public, lui, il les perçoit pas du tout comme tels. Les trois quarts des gens prennent la chose au premier, totalement au premier degré. Alors moi, alors que j'ai fait exprès de forcer le trait pour que on comprenne bien que c'était pas à prendre au premier degré, mais il n'empêche que le public le prend complètement au premier degré. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir que L'amour triomphe toujours, qui est mon titre le plus décalé en fait d'une certaine façon, est un des mes albums qui marche le mieux à cause de son titre. Parce qu'il est utilisé comme message, les gens s'envoient en fait le bouquin et le titre sert de message en fait, mais totalement au premier degré. Donc en fait, on a du mal avec le second degré, hein, de temps en temps.
Alors j'annonce le sommaire des réjouissances aux auditeurs, si vous me le permettez, vous.
Oui.
Dans quelques instants, vous allez convoquer une course-poursuite, un lavage de voiture, une chanson mystère, des champignons, La Fontaine, Marquet, Utrillo, Monet, Vermeer, Hopper, Morandi et le pastafarisme qu'on a découvert grâce à vous juste après Nu de Clara Luciani.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Vooch et de Steve McQueen.
Y a-t-il quelque chose qui t'atteint? Qui t'atteint vraiment? Ou bien es-tu si blasé que plus rien ne puisse te toucher? Tu vis dans un égout, Franck, à longueur d'année.
Nous y vivons tous et il n'y a pas moyen d'en sortir.
Il donne le la pour l'émission 1968, l'adaptation d'un roman de 63 de Robert Lloyd Pike, c'est un pseudo, intitulé Mute Witness, bullet du réalisateur anglais Peter Yates avec Steve McQueen, Jacqueline Bisset et Don Gordon. Vooch, est-ce que vous pouvez faire une ébauche de ce qui se passe dans ce film qui est absolument formidable?
Bah, le film est formidable. Alors moi qui suis plus attaché souvent au fond qu'à la forme, mais là c'est la forme qui fait tout. C'est-à-dire c'est d'abord la musique de la Lou Schifrin.
Ouais, formidable.
C'est le montage, c'est Steve McQueen bien sûr, parce que l'histoire elle est, l'histoire c'est une histoire de policiers désabusés. C'est pas totalement original. C'est pas une très grande histoire. Mais alors après, ce que ça devient à l'écran, c'est sublime quoi.
Vous avez choisi des scènes, mais elles n'étaient pas radiophoniques. Vous avez choisi le début du film avec le solo de guitare ou le début de la course-poursuite. Alors, il y a une course-poursuite d'anthologie dans ce film entre une Ford Mustang et une Dodge Charger dans les rues de San Francisco. Ils ont mis 3 semaines pour tourner cette scène. Il n'y a aucun trucage.
Et Steve McQueen conduisait la voiture, a priori. Enfin, sauf peut-être dans la dernière scène où ça prend feu et tout ça, j'en sais rien.
Il faut
préciser que les deux tueurs, il y en a un qui a une tête de comptable, ce qui est un truc, ce qui est une trouvaille absolument extraordinaire. Il y a un tueur qui a une sale gueule de tueur, et puis l'autre, il a une tête de, on dirait un fiscaliste en fait. C'est un mec avec des grosses lunettes. Et alors ça, c'est absolument génial d'avoir un méchant qui une trouvaille de casting, si vous voulez, un méchant qui ressemble pas à un méchant.
C'est le premier film où on entend « bullshit » aussi, dans une grosse production hollywoodienne.
Ah bon ? Ouais. Bah, je ne savais pas.
Bon, bah, je vous le dis. Vooch, votre citation anti-spleen est aussi le titre d'un de vos albums, paru en 97. C'est « Tout s'arrange même mal », c'est une variante de « Tout finit par s'arranger même mal » attribué au journaliste, écrivain et ancien dessinateur industriel Alfred Capu.
Ah, voilà. Alors, je voulais en dire un mot. Ce qu'a écrit Alfred Capu, c'est, vous l'avez cité in extenso, mais moi je connaissais la version courte qui était « Tout s'arrange mais mal ». Et il s'est trouvé qu'en fait, dans mon petit parcours de pub, quand je travaillais en agence, j'avais un très bon copain qui disait « tout s'arrange même mal ». Donc un jour, j'ai voulu l'utiliser comme titre, c'est pas de moi. Hein. Je lui ai demandé l'autorisation, il m'a dit « mais c'est pas de moi », etc. Et en fait, c'était une déformation de langage parlé. Mais je trouve en fait l'évolution presque mieux que l'original. J'aime bien le même mal, voilà.
Il y a une certaine ironie, évidemment, dans cette formulation, puisque même mal, ça veut dire que ça ne s'arrange pas du tout.
Oui.
Vous accommodez facilement de la tournure des choses ?
Est-ce que je m'accommode ? Bah, je fais comme tout le monde, je fais avec.
Mais dans la douleur ou dans l'apaisement ?
Ça dépend des sujets. En ce qui concerne l'impression de mes livres et la qualité des couleurs, là j'ai du mal à digérer. Quand c'est vraiment mauvais, ça me turlupine pendant longtemps.
Ce qui est rassurant dans cette citation, c'est que on est dans l'après. On n'est plus dans le moment où on a peur et on ne sait pas comment les choses vont s'arranger ou pas. Et l'après, on est toujours en vie finalement. Tout s'arrange même mal, bien. Ça, c'est mal arrangé, dans le pire des cas, mais on est toujours là.
Moi, j'y pense sérieusement comme épitaphe. Je trouve ça pas mal comme épitaphe.
Non, on dirait un de vos dessins.
Bah, écoutez... oui, il y a un rapport entre les titres et les dessins, oui.
Vooch, nous vous avons demandé 2 chansons qui vous empêchaient d'être triste. Vous nous avez donné un titre qu'on va écouter. Et vous nous avez dit que vous nous apporteriez... un autre morceau. C'est un morceau mystère. Je vous propose qu'on l'écoute et vous nous en parlez juste après. Qu'est-ce qu'on entend, Vooch ?
On entend de la musique.
Ah oui ?
Oui.
Alors ça, alors ?
Non, mais on entend un groupe de petits jeunes qui sont pas du tout encore voilà dans le commerce, tout ça, c'est pas, donc c'est totalement confidentiel pour l'instant, mais je trouve ça très bien.
Comment s'appelle-t-il?
Alors, il s'appelle Permanent Vacation.
D'accord.
Parce que ils ont dû penser que l'anglais c'était très très chic.
Mais vous les connaissez personnellement?
Oui, moi, c'est des copains de mon fils.
Oui, voilà, je me disais bien. Ouais. Bon. Alors, après cette petite réclame qui ne mange pas de pain.
Bah oui.
Oui. Vooch, la chanson que vous avez choisie pour l'émission, c'est une chanson du film Car Wash,
oui,
du groupe Rose Royce, sorti en 76, composée et produite par Norman Whitfield pour le film de Michael Schultz. Ça comble le côté.
Mais je connais même pas le film.
Bah écoutez, bah, le film est très rigolo.
Bah oui, alors j'ai découvert que c'était un film, alors je vais le regarder incessamment sous peu. Mais moi, je connaissais que la musique du film.
Et alors cette musique, on va justement l'écouter. Est-ce qu'elle vous fait danser? Est-ce que vous l'écoutez souvent?
Danser, non, parce que je danserai dans une autre vie, en fait.
Ah oui, vous n'avez pas dansé dans cette vie?
Dans celle-là, je danse très peu.
Pourquoi?
Voire même pas du tout. J'ai décidé de répartir les choses sur plusieurs vies. Donc la danse, j'ai reporté ça à la prochaine.
Et alors, par exemple, Vooch, quelle autre activité avez-vous reporté à la prochaine vie?
La musique.
Ah oui.
Et également pilote d'avion.
Ah oui.
Oui. Et ça va pas être possible, là, je sens bien que ça va pas être possible pour des questions de délai, de trucs. Et le golf aussi.
Et alors, quelles sont les activités que vous pensez pouvoir faire dans cette vie, Vooch, à part le dessin?
Bah, j'ai fait le plus gros, hein.
Oui.
J'ai fait le plus gros, c'est-à-dire, je voulais, après un parcours assez sinueux, assez bizarre, assez chaotique, je suis quand même arrivé à mes fins. Voilà.
Bon, bah alors, on écoute Car Wash,
oui,
du groupe Rose Royce.
Oh,
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Vouch.
Quant à moi, dans les bois où l'on furette, pas à pas, j'ai trouvé dans leur cachette.
Quoi ?
Des champignons à grosse tête. Les voici, j'ai rempli cette brouette. Des palais embaumés pour l'omelette. Et des girolles, dont je raffole.
Merci, les fleurs me font grand plaisir, mais ces champignons me font frémir. Je prends les fleurs qui vont me fleurir, mais les champignons vous font mourir.
On se dit donc en danger, on se force à les manger.
Mais à la fin du dîner, on expire empoisonné.
1933, Pils et Tabet accompagnés de Mireille, les fleurs et les champignons afin d'introduire l'activité qui vous met en joie, Vouch. Vous baladez en forêt en cherchant des champignons. Est-ce que vous reconnaissez les champignons ?
Ben heureusement. Heureusement.
Vous avez un savoir champignonnesque ?
Bon, c'est pas compliqué. Il suffit d'être un petit peu, de regarder... Alors, la seule difficulté, c'est que la couleur d'un champignon, la forme d'un champignon, la taille d'un champignon, c'est des variables, en fait, tout ça. Donc il faut repérer...
Son CV.
Il faut repérer l'essence de l'identité du truc. Parce que le chapeau rose peut devenir jaunâtre, le truc bleu peut devenir gris. La couleur bleue d'un chapeau, par exemple, peut devenir grise. Le pied, qui normalement est petit, il peut être un peu plus gros. Voilà. Donc, et puis, alors, en plus, un champignon, ça vieillit. C'est-à-dire qu'il y a le champignon jeune, le champignon adulte, et puis le champignon vieux.
Qui a une moustache.
Non, il n'a pas de moustache. Mais enfin, il a tendance à se recroqueviller sur lui-même, etc.
Mais comment on les reconnaît, alors, vous? Parce que là, vous êtes en train de dire qu'il change tout le temps.
Il y a des bouquins.
Voilà, et vous vous êtes formé grâce aux bouquins.
Oui, mais surtout, on accompagne quelqu'un en forêt qui s'y connaît, et il vous montre les trucs. Une fois qu'on a vu 5 ou 6 spécimens dans différents états d'un champignon, on le repère et puis on se trompe plus.
Est-ce que vous êtes sensible, Vouch, à la poésie des noms des champignons ?
Oui.
Parce que c'est très beau, là j'en ai quelques toxiques. Le calice de la mort, la galère marginée, le cortinaire roux, les cornes de daim rutilantes.
Oui, c'est très amusant. Oui, les noms des champignons, alors parce qu'ils ont toujours un nom latin, et puis ils ont un nom, comme vous dites, vernaculaire. Et il y a même aussi des noms de locaux.
Alors, il y a 3 ou 4 décès par an en France dû à une ingestion de champignons toxiques, ce qui est peu. Vous n'avez jamais été malade après une cueillette de champignons ?
Non, jamais.
Jamais. Est-ce que vous avez un conseil de connaisseur pour les auditeurs qui voudraient s'y mettre ?
Oui, il faut accompagner quelqu'un qui sait.
D'accord.
Voilà, ça commence comme ça, on accompagne, on regarde, on essaie de comprendre. Puis au début, on ramasse 3-4 sortes de champignons, puis on laisse tous les autres. Et puis au fur et à mesure qu'on devient un peu compétent, on peut agrandir le spectre, parce qu'il y a beaucoup de champignons qui sont comestibles quand même.
Dans votre autobiographie, Vouch, il est noté 2011, bonne année pour les cèpes.
Mm-hmm.
Vous vous en souvenez ?
Oui, très bien.
Il y a des vers dans les cèpes, paraît-il, il y a des techniques pour s'en débarrasser.
Ah ben, je connais pas, moi, la technique pour se débarrasser des vers. Alors, c'est de les mettre dans le vinaigre?
Non, nettoyer les cèpes, puis les enrouler dans un film en cellophane. On les met au frigo et les vers sont asphyxiés et sont dans le papier cellophane.
Ah ben j'écoute, j'apprends quelque chose. Mais enfin, il n'y a pas tout le temps des vers dans les cèpes. Hein. Ça dépend des saisons, ça dépend du moment où... ça dépend de l'endroit où vous êtes. Enfin, il y a des tas de variables.
Vous avez une recette avec des champignons, Vouch? Quelque chose de simple?
Alors j'ai une recette, mais c'est avec des champignons de Paris, qui sont par ailleurs des champignons absolument délicieux. C'est les faire griller au barbecue, juste le chapeau, et on le fait cuire donc avec les spores vers le haut, et on met quelques gouttes d'huile de sésame dans les spores en fait, et puis on laisse cuire ça, et il va y avoir donc un mélange du goût du champignon, du goût du barbecue aussi, de la combustion du barbecue.
Et, vous dites barbecue
Oui, non.
Non, je sais pas, moi j'avais toujours entendu barbecue.
Mais c'est un mot français, barbecue.
D'accord.
C'est de la barbecue.
Ah oui.
C'est un mot français que les Anglais nous ont piqué et qui revient chez nous. Ça veut dire embrocher de la barbecue. C'est le principe d'une brochette.
Ah ben là, c'est vous qui m'apprenez quelque chose.
De la barbecue. Donc les Anglais l'ont emmené chez eux et comme ils peuvent pas dire de la barbecue, ils ont dit barbecue.
Oui.
Et ça revient chez nous sous forme de barbecue.
D'accord.
Mais en fait, c'est un barbecue.
Merci, voilà. Merci, je suis enrichie.
Voilà. Mais je suis à votre disposition.
Alors, restons bucoliques, Vooch, non plus en chantant uniquement la nature, mais aussi les êtres qui s'y trouvent, en compagnie d'un homme qui exerça la charge de maître particulier des eaux et forêts à Château-Thierry. Vous avez choisi les fables de La Fontaine. Et alors, je me suis rendu compte en préparant cette émission, ça je ne le savais pas, qu'il a toujours été sous la protection des puissants et qu'en fait, tous ces recueils de fables étaient destinés à des puissants.
Oui, mais c'est l'époque qui veut ça. À l'époque, on ne pouvait pas être artiste si on n'avait pas un sponsor, un mécène. Donc voilà, il était dans son époque, il n'y avait pas de bourse, il n'y avait pas de comité ministériel qui donnait des choses aux artistes pour qu'ils puissent vivre. Il n'y avait pas d'avaloir chez les éditeurs, donc il fallait bien vivre de son art. Et donc c'était la technique de l'époque.
Est-ce que vous avez des fables préférées parmi les 243 qu'on connaît ?
243 ouais. Moi, je crois qu'il y en avait 240.
Ah oui ? Et moi, j'ai trouvé 243.
Oh, eh ben, c'est sûrement vous qui avez raison.
Non, sans doute pas.
Si, si, si.
Vous en lisez plein. Souvent ?
Non. Alors, je vais vous dire. La Fontaine...
Dites-moi.
J'ai découvert ça gamin, comme tout le monde. Hein. Ça fait partie du programme des petits écoliers français. J'ai adoré d'ailleurs. Et là, accidentellement, il y a quelques mois, j'ai été amené à me replonger dans La Fontaine. Et quel bonheur. Et je me rends compte non seulement que j'ai rien oublié, enfin, j'ai oublié évidemment les vers, mais j'ai pas oublié les histoires, j'ai pas oublié les personnages, j'ai pas oublié la musique de cette langue. Et je m'aperçois en plus que finalement, je les ai jamais oubliés non plus dans le sens, c'est-à-dire que il y a des rapports entre les fables et le dessin d'humour. Hein. Elles ont toujours été là, présentes en fait, ces fables. C'est-à-dire que c'est une, elles m'ont jamais quitté. Alors je les ai oubliées un peu bêtement, et là je les redécouvre et je me dis mais c'est mon patrimoine. Enfin c'est pas que mon patrimoine, c'est pas, je suis pas le seul, mais je découvre que vraiment c'est mon disque dur quoi.
C'est déjà arrivé, Vooch, que l'une des morales d'une fable de La Fontaine soit un appui pour vous ou que vous vous la remettiez en tête dans une situation précise ?
Écoutez, le nombre d'expressions françaises qui sont tirées des morales des fables de La Fontaine, c'est absolument colossal, en fait. Elles sont passées dans le langage courant, mais c'est absolument énorme. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a marqué, en fait, son époque, mais il a marqué aussi la pensée commune en France pendant ouais, ça fait 3 siècles. Quoi.
Tout à l'heure, Vooch, vous disiez qu'il y avait un rapport entre les fables et puis les dessins d'humour. Et c'est vrai que, moi, le rapport que je vois, mais c'est sans doute pas celui auquel vous pensez, c'est qu'en fait, La Fontaine, sous une forme très drôle, où on est dans le badinage, on est dans la beauté de la forme, on est dans le truculent, donc on est réjoui quand on lit ses fables, parle de quelque chose de tragique. Et c'est un peu ce que vous faites dans vos dessins. Avec drôlerie, c'est quand même la solitude, être dépassé par les choses, la séparation des êtres, l'incommunicabilité, la mort.
Je sais pas, non. Enfin bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je parle des problèmes de mon époque.
Et oui, mais je veux dire, on prend le comique pour parler du tragique.
Oui, alors après, il y a les moyens. Alors, la fable, effectivement, elle utilise un procédé très simple qui est le décalage. Et le décalage, je sais par mon expérience de dessinateur humoristique, le décalage, c'est très très payant. C'est-à-dire, on s'éloigne du sujet et en fait, on a beaucoup plus de force en fait quand on revient dessus, hein, parce que la fable, c'est ça, il y a la morale à la fin qui remet le truc sur les rails. Il y a des parallèles dans l'idée de conceptuellement dans l'idée de s'éloigner pour tirer plus précis, ce qui paraît un peu bizarre, mais en fait, ça marche comme ça.
Alors moi, j'en aime une qui est très littérale, très premier degré, c'est « La mort et le mourant ». C'est sur
oui,
la mort,
je
et
connais.
Je la recommande aux auditeurs. Oui. Et vous, avez-vous choisi une fable à nous lire ?
Oui, j'ai choisi une fable avec un animal. Alors, il faut que je la lise ?
Bah avec plaisir, si ça ne vous ennuie pas.
Alors, c'est le héron. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait mille tours avec le brochet, son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas, il s'attendait à mieux, et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches, dit-il, moi, Héron, que je fasse une si pauvre chair. Et pour qui me prend-on ? » La tanche rebutée, il trouva du goujon. « Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, au Dieu ne plaise. » Il l'ouvrit pour bien moins, tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon.
Et ça, Vouch, alors, quand vous lisez une fable de La Fontaine...
Ah ben attendez, il y a encore un bout.
Quel suspense dans cette lecture. Allez-y.
J'ai oublié la morale.
Allez-y, je me demandais aussi.
Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. C'est difficile à dire, hein, La Fontaine, franchement...
Non mais alors... j'attendais la morale, puisque en fait, oui, pendant toute une fable, on se sent un peu bête, et puis d'un coup, La Fontaine arrive et dit non, t'inquiète pas, en fait, j'ai juste dit ça,
t'inquiète,
c'est très simple.
Voilà. Je te résume le truc.
Voilà.
Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cette fable-là? Il y a plein de poissons, comme je suis pêcheur aussi.
Ah oui?
J'ai beaucoup de défauts, oui.
Dans cette vie-là?
Oui, absolument. Alors donc tous ces poissons, je les connais très bien.
Personnellement?
Les goûts. Non, je vois à quoi ça ressemble, j'en ai pêché, etc. Donc je suis tout content, je suis tout frétillant.
Et alors, Vouch, vous qui êtes frétillant, n'y a-t-il pas un risque malgré tout, si on prend tout de suite le premier poisson, justement pour ne pas se retrouver dans le cas de figure du héron, de se contenter de médiocrité? Parce qu'il y a un risque, là quand même, on comprend le comportement du héron.
Oui, on le comprend très bien. Alors, il dit pas qu'il aurait dû manger le premier poisson. Hein. Il dit, faut pas être trop difficile. Faut être accommodant. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi non plus. Donc, il aurait peut-être pu s'arrêter au goujon. Par exemple, le goujon, c'est très bon. J'en ai mangé des goujons, c'est très bon.
Bon, j'en profite pour saluer tous les goujons qui nous écoutent. Dans un instant, on parlera de l'église du spaghetti volant, juste après Falls Exist.
Oh,
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Vouch.
Si nous portons une passoire sur la tête, c'est en fait en hommage à notre Créateur. Car la passoire est le symbole de la cuisson des pâtes. Nous sommes une religion aussi sérieuse que les autres, avec des arguments aussi valides que les autres religions.
Alors c'est le témoignage d'un pastafariste dans le journal télévisé belge RTL Info en mai 2018. Votre idée consolatoire, Vouch, c'est le pastafarisme créé en 2005 par l'étudiant Bobby Anderson en réaction à la décision du comité d'éducation de l'État du Kansas visant à introduire l'enseignement de la théorie du dessin intelligent dans les écoles publiques. Alors c'est une théorie néo-créationniste, pseudo-scientifique. Il crée donc une religion un peu spéciale dont je vous laisse, Vouch, dresser les grandes lignes.
Alors, je suis pas du tout un spécialiste de cette religion.
Vous n'êtes pas d'obédience
pastafariste. Je suis un nouvel adepte. Je suis même pas officiellement reçu par cette église. J'ai pas fait mon baptême.
Mais vous avez une passoire. Vous avez hésité à venir en passoire.
Par contre, je suis un sympathisant.
Oui.
Très nettement. Donc, c'est une contre-religion, mais qui a vraiment une forme de religion monothéiste. D'ailleurs, je crois. Enfin, c'est une religion dont le dieu est en fait un plat de pâtes avec des boulettes de viande qui volant. Et alors, ses adeptes, en hommage donc à ce dieu, dans lequel ils croient complètement, se mettent des passoires sur la tête en signe de respect et d'adoration. Donc rien que ça déjà, je trouve ça très sympathique. Alors après, il y a plein d'autres choses à côté. Il y a l'histoire des pirates. Donc les pastafaristes sont également des scientifiques qui font des rapprochements entre des données statistiques, et ils ont remarqué qu'en fait la courbe de la disparition des pirates correspondait exactement à la contre-courbe de l'augmentation du réchauffement de la planète. Ils en ont donc déduit que si la planète se réchauffe, c'est parce que les pirates ont disparu. Qui est scientifiquement incontestable.
Bah évidemment.
Et donc ils sont pour le retour des pirates trouver une solution à ce problème climatique.
Alors il leur arrive d'ailleurs de se déguiser en pirate quand ils n'ont pas de passoire sur la tête. Et ce dieu auquel ils se réfèrent, c'est donc cette créature de spaghettis volants qui aurait créé le monde en une journée après une cuite mémorable, d'où l'imperfection du monde.
Voilà.
Et
alors, ils adorent la bière aussi.
Oui, ils
boivent de la bière.
Bah, d'ailleurs, au paradis, il y a de la bière et des stripteaseurs et des stripteaseuses.
Voilà.
Et en enfer, c'est pareil, sauf que la bière est éventée.
La bière est éventée et les stripteaseurs, d'après ce que j'ai lu,
Ont
des maladies sexuellement transmissibles.
Voilà. Ouais. Alors, Vouch, avez-vous lu leur texte sacré qui est l'évangile du monstre en spaghetti volant de Bobby Anderson?
Je compte le faire très prochainement.
Vous m'avez parlé juste avant l'émission des photos d'identité qu'on peut voir sur Internet de certains sympathisants pastafaristes. Alors, parce qu'il faut dire que dans certains pays ou États, on a le droit, sur ces papiers d'identité, d'avoir une passoire sur la tête.
Oui, ça a été des luttes administratives assez considérables. Et pour finir, il y a un certain nombre de pays qui ont fini par admettre que c'était une religion, même si elle leur semblait au premier abord un petit peu olé-olé. Mais enfin bon, ils n'ont pas réussi à prouver que c'était pas une religion, et donc ça a été accepté. Donc il y a des gens qui roulent en voiture avec des permis de conduire, où leurs photos les présentent en portrait avec une passoire sur la tête, ce qui est quand même gay, je trouve, comme permis de conduire, moi.
C'est vrai. Et d'ailleurs, les pastafaristes disent que si vous leur prouvez qu'ils ont tort, ils vous donnent 1 million d'euros.
Oui, alors ça, c'est un truc, parce qu'il y avait au départ, c'est un pari d'un créationniste qui avait dit, si vous arrivez à me prouver que la théorie de la création qu'on défend n'est pas juste, je vous donne une somme considérable. Alors voilà, donc c'est la symétrie de ce truc-là.
There is one characteristic of art that is essential to the experience that you always get out of Morandi, which is he transforms your idea of what is real. He has this capacity through a single work to transform your idea of what an ear is, what an eye is, what atmosphere is, what color is, what light is. And it occurs deeply and experientially. You no longer feel the same.
La caractéristique essentielle dans l'art de Morandi est qu'il transforme votre idée du réel. Il possède cette capacité, en un seul tableau, de transformer votre idée de ce qu'est une oreille, un œil, l'atmosphère, les couleurs ou la vie. Il en résulte une expérience profonde qui fait que vous ne serez plus jamais le même. 2016, au Center for Italian Modern Art à New York, le graphiste et typographe américain Milton Glaser, à propos du peintre italien Morandi, qui fut l'un de ses camarades d'études dans les années 50. Vous avez choisi plusieurs peintres pour l'émission. Il y a Morandi, bien sûr, mais aussi Marquet, Utrillo, Monet, Vermeer, Édouard Hopper. Dressons un bref panorama de votre panthéon graphique. Morandi d'abord, qui n'a jamais quitté sa ville natale de Bologne. Comment vous décririez son œuvre? Elle est assez spécifique.
Ben c'est un vrai artiste, en fait. Je sais peu de choses sur ce monsieur. Je sais qu'il faisait des natures mortes, qu'il s'était installé une table avec une petite une table qui montait, qui descendait. C'était un petit bricolage qu'il avait fait faire par un menuisier ou je sais pas quoi à côté de chez lui. Et en fait, il avait presque toujours les mêmes pots. Et donc on voit bien, donc il changeait de peau, il montait le plateau, il descendait, etc.
Il a
passé presque toute sa vie à faire ça. Et donc on voit bien tout le côté très intellectuel en fait de la nature morte. Voilà, la nature morte, les gens voient tout de suite des coupes avec des grains de raisin, des faisans morts, etc. Mais c'est aussi un exercice complètement abstrait en fait.
Morandi à aller voir, il y a une épure, des couleurs pâles, une impression de silence, je le précise, puisque ça va revenir chez d'autres peintres que vous avez choisis, Vouch. Il y a le fauviste Albert Marquet, ancien élève de Gustave Moreau, pour ses paysages, sa représentation de l'eau.
Et copain de Matisse. Alors le bonhomme, j'aurais adoré le rencontrer, il aurait fallu qu'on vive au même moment, mais j'aurais vraiment adoré être copain avec Marquet, parce que ça devait être un mec génial, je pense. C'était un bon pépère, pas du tout prétentieux. Plutôt bon vivant. Voilà. Alors, moi, dans Marquet, il y a un truc marrant. Marquet adorait le soleil, visiblement. Et donc, il a passé une bonne partie de sa vie plutôt dans le sud de la France et même en Afrique du Nord. Enfin, bon. Il voyageait beaucoup. Il était assez riche pour se payer une voiture. Et donc, il partait faire des voyages mais pas des voyages de 8 jours. Il partait pour 9 mois. Avec sa compagne. Et en fait, moi, je trouve personnellement, j'apprécie beaucoup plus ce qu'il a fait au nord de la Loire, parce qu'il est aussi allé se balader du côté de la Hollande, etc. À Deauville, voilà, avec Dufy, je sais plus qui. Et moi, je trouve que tout ce qu'il a fait au nord de la Loire, c'est sublime, et que, par contre, ce qu'il a fait dans le sud, à Saint-Tropez, tout ça, à part des vues d'Alger, qui sont absolument magnifiques. C'est moins bien, mais enfin bon, je lui en veux pas.
Non, on sera tolérant.
Voilà.
Bon, il a fait de très beaux reflets sur l'eau, en effet. Et alors, son contemporain, Maurice Utrillo, qui a commencé à peindre pour se détourner de l'alcool.
Oui. Bon, c'est un destin tout à fait incroyable, parce qu'il devient alcoolique très très tôt. Il devient complètement accro. Il s'en sort par la peinture et à la fin il va devenir même très très croyant. Et contrairement aux impressionnistes, il est capable de travailler d'après des cartes postales, enfin des cartes postales de l'époque, donc en plus en noir et blanc, je pense.
Il fait beaucoup de vues de Montmartre.
Oui, il adore dessiner les immeubles, les maisons. C'est ce qui fait le mieux. Et on a l'impression qu'en fait il n'est pas totalement conscient que c'est un truc complètement sincère, quoi, qui sort tout seul.
Et tout à l'heure je précisais le silence et l'épure pour Morandi. Vous avez choisi Vouch, le maître de l'école hollandaise Vermeer, et aussi Hopper, qui vient d'un autre siècle évidemment, avec beaucoup de personnages mélancoliques, beaucoup de personnages seuls. Il y a cette nostalgie d'une Amérique passée, mais chez les deux maîtres il y a une impression de silence, de solitude.
Oui, peut-être.
Pourquoi vous les avez choisis?
Ben, je les ai choisis parce que je trouve ça beau, hein, d'abord. C'est pas pour le silence. Hein.
Mais en quoi est-ce un remède à la mélancolie, entre guillemets, sachant que tous les remèdes sont éphémères, évidemment, puisqu'il n'y a pas de consolation possible?
Ben, je sais pas, c'est bête ce que je veux dire, mais la beauté, c'est un des remèdes à la mélancolie, non? Je sais pas, enfin, voir quelque chose de très beau.
Vous n'avez jamais songé à être peintre, Vouch?
Dans un autre siècle, je pense que je serais tombé dedans directement. Directement. C'est-à-dire que si j'essaie de m'imaginer à la Renaissance, je me vois pas faire autre chose que ça. Je me vois pas marchand, je me vois pas guerrier, je me vois pas, voilà. Donc là, je pense qu'il y aurait pas eu d'état d'âme. Maintenant, la peinture étant ce qu'elle est, étant devenue ce qu'elle est, je suis très content d'être à ma place et pas avec un statut de peintre, qui m'emmerderait beaucoup, parce que, par exemple, quand je veux faire un coucher de soleil, bah, dans un dessin d'humour, j'ai pas de problème, je prends mes gouaches et je tartine un coucher de soleil, et très beau, très chatoyant, et c'est très beau, et ça me plaît beaucoup, et personne voit. Alors que si j'étais peintre, en fait, on dirait, oh bah, oui, ce ringard qui fait des couchers de soleil. Et donc, ça serait très compliqué. Je me poserais beaucoup de questions. Est-ce que je dois faire un coucher de soleil par rapport à mon œuvre est-ce que c'est compatible, tout ça?
Merci beaucoup, Vooch, d'être venu dans cette émission.
Merci à vous.
On peut consulter votre foisonnante bibliographie et la vie secrète de ceux à qui on ne donne pas la parole sur le site T'es sûr qu'on est mardi, le très très vaguement blog de Vooch sur lemonde.fr. Des planches qui sont aussi parues sous forme d'albums au Cherche Midi. À signaler aussi deux rééditions, celle de La Planète Bizarre chez Thierry Magnier et de Le Futur ne recule jamais au Cherche Midi. Si l'on veut renforcer son savoir vouchologique, on peut se plonger chez le même éditeur dans le petit traité de vouchologie fondamentale, illustré par vos dessins et avec les textes de Jean-Bernard Moussu ou de son stagiaire, parce que je n'ai toujours pas compris après lecture attentive. Chers auditeurs, la programmation musicale et les remèdes sont sur le site de l'émission. J'espère que vous êtes aussi frétillants qu'un calamar philanthrope. Rendez-vous dimanche prochain à 10h.